Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comprendre la relativité. Beau matin du mois de mai 1905, après une longue soirée de discussion avec son ami Michele Besso, Albert Einstein a une sorte d'illumination rimbaldienne. « Je compris soudain, dit-il, où se trouvait la clé du problème. Ma solution, c'est une analyse nouvelle du concept de temps. Le temps ne peut être défini de manière absolue, et il existe une relation inséparable entre le temps et la vitesse du signal. » Fin de citation. Einstein venait là de réaliser que le temps n'est pas indépendant du mouvement dans l'espace. Il est relatif et non pas absolu, car c'est dans la lumière que réside le véritable absolu. Sa vitesse est la même dans tous les référentiels, ce qui veut dire qu'elle est indépendante à la fois de la vitesse de sa source et de celle de l'observateur qui la mesure. Einstein tenait ainsi les réponses aux deux questions qu'il s'était posées pendant son adolescence. À 15 ans, en Italie, il s'était demandé si de la lumière émettait la lumière, quelle serait la vitesse de la lumière émise? Et si la lumière émise émettait à son tour de la lumière, quelle serait sa vitesse? Quelle serait la vitesse de la lumière émise par de la lumière elle-même émise par de la lumière? Est-ce qu'on ne fabriquerait pas ainsi un escalier cinématique vers l'infini? La réponse, il l'a trouvée, c'est non. La vitesse de toutes ces lumières serait la même, celle de la lumière, identique aux yeux de tous les observateurs. À Arau, en Suisse, un peu plus tard, il s'était demandé « Comment percevrais-je la lumière si je chevauchais un rayon lumineux ?» Réponse, cette situation est impossible, puisque la lumière file toujours à la vitesse de la lumière par rapport à moi, quelle que soit ma propre vitesse dans l'espace. Mais soyons francs et osons poser la question, que veut dire tout ce que je viens de dire? Et quelle est au juste la nature du temps, cette sorte de fluide dont nous répétons qu'il transporte tous les objets, altère les êtres et les choses, ronge jusqu'aux roches les plus dures, améliore parfois les sociétés et plus souvent les vins. Le temps est-il comme notre langage le raconte? Comme nous croyons le percevoir ou le vivre? Comme le décrivent les physiciens? Pour le savoir, j'ai invité non pas un physicien, mais un philosophe. Bonjour Elie Düring.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, comme je viens de le dire, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, ça fait beaucoup. Et vous présentez dans un livre qui vient de paraître les deux conférences que Paul Langevin a données en 1911 sur la théorie de la relativité. Ce livre s'intitule « Le paradoxe des jumeaux, deux conférences sur la relativité ». On y parle du fameux paradoxe des jumeaux de Langevin, même si Langevin n'a jamais parlé de jumeaux, ni même de paradoxe, nous y reviendrons. Et vous commencez ce livre en citant Édouard Leroy, qui c'était un philosophe ?
C'était un mathématicien passé à la philosophie.
C'est grave ?
Je ne sais pas. Dans son cas, ça voulait dire être bergsonien, ce qui peut-être aggrave son cas, je ne sais pas.
Et cette citation dit ceci, « Demandez à un philosophe qu'est-ce que le temps, il commencera un discours. Posez la même question à un savant, il tirera sa montre et vous dira « le voilà ». Alors ça donne une raison plus supplémentaire au fait que j'ai choisi de vous inviter, d'inviter un philosophe. Si j'avais invité un savant, j'aurais eu peur qu'il me montre sa montre pendant une heure. Et à la radio, c'est pas ce qu'on attend de l'invité. Alors, est-ce que cette citation que vous mettez en exergue résume la situation? C'est-à-dire, les philosophes parlent du temps, les physiciens le mesurent, voire le calculent, mais restent rivés à ce qui est objectivable.
Oui, enfin, c'est une façon un peu provocatrice pour Leroy, hein, qui était prof au Collège de France, qui a commencé comme mathématicien, d'ailleurs, qui a travaillé à une époque avec Poincaré, sous sa direction. C'est une façon pour Leroy d'indiquer vraiment une différence de méthode ou de style, et aussi d'indiquer le type de malentendu auquel on arrive assez vite dans une conversation entre philosophe et physicien. Le contexte, là, c'était une discussion entre Paul Langevin, physicien, et un petit cénacle de la Société française de philosophie. Il s'adressait donc à des collègues philosophes. Et dans ce genre de contexte, dans ce genre de discussion, le malentendu auquel on s'expose, c'est que, en effet, il y a deux styles. Le philosophe est plutôt tenté d'aborder les choses de façon conceptuelle, c'est-à-dire à partir, disons, de considérations concernant le type d'objet qu'est le temps, le type de concept qu'il faut mettre ou de catégories qu'il faut mettre en œuvre pour en parler, là où le physicien, de façon assez naturelle, va s'intéresser, c'était l'esprit de vos remarques d'ouverture sur Einstein, va s'intéresser aux procédures, aux dispositifs qui permettent d'appréhender cet objet dans l'expérience, c'est-à-dire, alors, dans le cas d'Einstein, à travers des échanges de signaux électromagnétiques. Et évidemment, si on part sur des bases aussi éloignées, il est difficile de s'entendre. Ou du moins, pour s'entendre, il faudra que chacun fasse un effort pour aller en direction des problèmes fondamentaux et qui sont des problèmes, malgré tout, communs. Mais il faudra s'extraire de son style naturel, de son habitude naturelle pour entendre les questions de l'autre.
Mais Turing, qui a autorité pour parler du temps ?
Ben justement, personne. Ni le physicien, ni le philosophe. Je pense que c'est ça que veut dire le roi. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette hétérogénéité même, il y a l'indice qu'en réalité, personne n'a autorité.
Et tout le monde en parle.
Et que tout le monde en parle. Et que, ben, par exemple, la manière dont vous avez décrit, c'était très beau, hein, l'escalier cinématique vers l'infini, de ces vitesses de la lumière, la vitesse de la lumière toujours absolue, toujours identique à elle-même. Ça évoquait presque un texte littéraire à la Calvino. Ça, c'est une façon de parler du temps, en effet, de l'aborder à partir d'images déroutantes qui vous font perdre pied. Vous avez évoqué ensuite le temps comme ce fluide, alors de façon un peu distanciée, ironique, ce fluide qui nous enveloppe, qui flue à vitesse variable. Bon,
mais
c'est tout le problème. D'abord, par rapport à quoi ? Et puis, est-ce qu'on a raison d'emblée caractériser le temps comme un fluide, ou quelle que soit la métaphore, comme quelque chose ? Je veux dire, comme un objet.
Comme une substance.
Une substance qu'on pourrait mesurer, dont on mesurerait le rythme d'écoulement, etc. Ce que fait spontanément le physicien, puisqu'il mesure précisément. Bon, la tendance de la philosophie, ça a été de voir le temps comme plutôt un objet formel, quelque chose en fait d'extrêmement abstrait. Alors c'est très concret parce que ça nous infuse, ça fuse à travers nous, comme disait Merleau-Ponty, mais c'est aussi, quand on y réfléchit, davantage une forme ou un concept formel qu'un objet à décrire ou à mesurer. Alors la tendance du philosophe, c'est de dire « n'allons pas trop vite, reconnaissons au concept de temps son caractère extrêmement singulier ». Et donc une façon de l'aborder, c'est ce que vous avez suggéré, qui est tout à fait dans la ligne d'Einstein, d'ailleurs vous le citiez, c'était de dire, bon, il faut comprendre qu'il y a une façon de parler du temps qui l'absolutise, et puis il y a une façon qui est plus physicienne, plus en phase avec la physique contemporaine, qui est relative, qui pense tout d'emblée le temps en relation au mouvement dans l'espace, en effet, aux manières qu'on a de l'appréhender, etc. Absolu, relatif. Mais vous voyez que cette façon-là même de cadrer le débat est très philosophique, en fait.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base, un problème de sémantique, c'est-à-dire que le premier qui a introduit la notion de temps en physique, c'est Newton. Galilée l'avait fait un peu, mais Newton est allé plus loin en formalisant le paramètre T, donc une variable mathématique qu'il a appelé le temps. Est-ce qu'il y a des raisons de comprendre pourquoi il l'a appelé ainsi, le temps ? Sachant que le temps physique, ce paramètre T, n'a aucune des propriétés que nous attribuons d'habitude au temps. Par exemple, il ne dépend pas de ce qui se passe dans le temps. Oui. Il ne change pas au cours du temps, il ne dépend pas de lui-même en quelque sorte. Alors que nous avons tendance à penser le temps comme étant la manifestation où nous pensons qu'il ressemble à ce qui se manifeste dans le temps. Par exemple, on va accoler au temps des qualificatifs, un temps subjectif, un temps ceci, un temps cela, comme s'il y avait autant de temps qu'il y a de temporalité qui se manifeste. Mais si Newton avait appelé la variable T autrement que temps, on n'en serait pas là, on n'interrogerait pas les physiciens sur ce qu'ils ont découvert à son propos. Ils parleraient de trucs,
oui. Et voilà. Un paramètre d'évolution.
Voilà, ou un paramètre qui transporte avec lui-même l'invariance des lois physiques.
Oui, voilà. Il aurait pu le faire si l'idée même que ce paramètre d'évolution, ou ce petit t qui permet de mesurer le long des lignes d'univers dans l'espace-temps, si cette chose-là, cet objet mathématique, avait présenté pas immédiatement une affinité avec l'idée de succession. L'idée de succession qui est un des aspects, une des dimensions essentielles du concept de temps. Bon, moi je dirais simplement, cette espèce d'omnibulation sur la succession a fait oublier, et peut-être Newton n'en a pas assez tenu compte justement, une autre dimension du temps qui est tout aussi importante, qui est en réalité la dimension de simultanéité. C'est-à-dire non seulement le temps et la dimension du successif, mais c'est en fait aussi, c'est pas l'espace, c'est le temps qui prend en charge la dimension du « en même temps ». Et Newton résout le problème très vite, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucun problème à penser des choses simultanées. Bon, il y a un espace absolu, il y a le sensorium de Dieu qui sent les choses en quelque sorte.
Il y a un présent de l'univers.
Voilà, qui saisit l'univers en présence, en totalité. Mais précisément, c'est cette articulation du simultané et du successif qui devient problématique, qui éclate en fait avec Einstein. Et c'est là aussi qu'on s'aperçoit que le temps, en effet, c'est autre chose que simplement un paramètre d'évolution. C'est quelque chose qui à la fois rend compte de la succession, de l'enchaînement des choses et de leur tenue, de leur consistance dans le simultané. C'est à la fois l'un après l'autre et le en même temps.
Et les Turing, vous avez parlé tout à l'heure de Merleau-Ponty, Maurice.
Oui.
On aurait pu parler de Jacques
le cosmologue, enfin, philosophe de la cosmologie.
Mais Maurice Merleau-Ponty défendait l'idée que la physique expérimentale et théorique aussi produit parfois des découvertes philosophiques négatives. Non pas qu'elles viennent coloniser la philosophie, la remplacer ou répondre à sa place, mais à propos de questions philosophiques, elle vient apporter des arguments qui oblige le philosophe à revisiter les réponses qu'il avait pu apporter à certaines questions philosophiques. Est-ce qu'en 1911, à l'époque où Langevin prononce les deux conférences que vous présentez dans ce livre, les philosophes étaient prêts à recevoir des leçons de la part des physiciens ?
Des leçons avec une certaine prudence. Il y avait quand même il y avait une grande confiance dans la science. Il y a une sorte de climat rationaliste qui faisait qu'il y avait des tentatives, des projets effectifs hein, de collaboration intellectuelle entre scientifiques ou savants et philosophes, comme il y en a rarement l'exemple aujourd'hui. Hein. Donc c'est très impressionnant de voir que la conférence de Langevin, la première d'avril 1911, qui est reproduite dans le livre...
Elle se déroule où ?
Elle se déroule à Bologne. Et pourquoi à Bologne ? Pourquoi en Italie ? Parce qu'il y a là un congrès international de philosophie où sont réunis non seulement tous les grands philosophes de l'époque, de Bergson à Russell, en passant par Durkheim, bon, sociologue associé à la philosophie encore à l'époque, et d'autres, j'en passe, et des meilleurs, mais aussi un aréopage de scientifiques de très haut vol, Poincaré, Langevin lui-même, Henriques, Ostwald...
Bon. Ça veut dire qu'il y avait des colloques internationaux de philosophes ?
Avec des scientifiques invités.
Alors qu'il y avait assez peu de colloques internationaux de physiciens. Le premier, oui. C'est 1911, voilà. Le congrès Solvay à Bruxelles. D'ailleurs, au mois d'octobre, c'est à peu près la même période.
Oui,
c'est... Il y a Langevin, d'ailleurs, qui sera là-bas.
Oui, Langevin qui fait vraiment le passage entre les deux communautés.
Et donc, c'est l'opposant intermédiaire entre la physique et la philosophie.
Quelque chose comme ça. Et donc, en effet, il apporte une nouvelle sidérante concernant le temps, l'espace, la nécessité qu'il y a à réformer ces concepts. Et il est assez bien accueilli, je veux dire, les gens sont prêts à l'entendre. Mais tout dépend de ce qu'on entend par réformer ces concepts. Et là, en effet, il y a ce bémol quoi, qui est introduit très vite par les philosophes, c'est que, bien sûr, il y a des découvertes philosophiques produites par la science que le philosophe doit être prêt à entendre. Mais en effet, comme le dira plus tard Merleau-Ponty, souvent, ce sont plutôt des découvertes négatives. C'est-à-dire que ce sont des découvertes qui indiquent ou qui signalent au philosophe ce qu'il ne peut pas penser, ce qu'il ne peut plus penser comme il avait l'habitude de le faire. Et ensuite, tout le travail d'élaboration positive du concept, en quelque sorte, reste à faire. Alors éventuellement, en collaboration avec les scientifiques, mais disons, c'est plutôt l'objet de la philosophie, d'essayer d'élaborer sur la base de faits, d'impossibilités matérielles, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de restaurer une sorte de cohérence dans nos concepts, en faisant le lien, c'est ça qui caractérise la philosophie, avec les concepts les plus ordinaires. C'est-à-dire que là où le scientifique peut tout à fait se contenter, on entend souvent ça, de dire « bon, bah, le temps, ça n'est plus ce que vous croyez, moi je vais vous dire ce que c'est que le temps, bah, le temps, c'est quelque chose qui, on en reparlera, qui ne dure que localement, qui n'a pas de dimension universelle, bon, etc. Bon, »
Voir qui n'existe pas.
Voir, oui, dans le pire des cas, qui n'existe pas du tout, qui n'est qu'une illusion. Le philosophe est généralement un peu plus prudent, parce qu'il essaie de tenir ensemble différents concepts de temps et de faire une cartographie qui soit maximalement charitable et accueillante, c'est-à-dire qui ne s'empresse pas de bazarder, de mettre au rebut au magasin des accessoires des concepts supposés obsolètes. Il s'agit quand même de donner autant de signification qu'on peut en donner à des façons de penser qui quand même ont fait leur preuve, ont servi à quelque chose, permettent de poser des questions qui sont valables, etc. Bon, alors ça, c'est la différence de tonalité. Juste pour revenir sur c'est quoi au fond la découverte négative de la relativité. Vous l'avez dit dans votre texte introductif, c'est cette idée qu'il y a un nouvel absolu qui est la vitesse de la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait une vitesse de la lumière qui vaille comme absolu ? Le point important, c'est que cette vitesse n'est pas infinie, précisément. C'est une vitesse finie. Une vitesse finie, ça veut dire que le concept d'action instantanée à distance ne fonctionne plus. On ne peut pas connecter deux événements à vitesse infinie, instantanément. Toute connexion réelle, c'est-à-dire causale...
Demande du temps.
Prend du temps. Toute connexion prend du temps. Et ça, c'est typiquement un énoncé philosophique, en fait, parce que ça a une portée extrêmement générale, quasiment ontologique. Ça touche à la connexion réelle des êtres et des événements dans le monde. Mais simplement, elle est négative. Elle dit, vous ne pouvez pas connecter les choses instantanément. Elle ne vous dit pas du tout ce que devient le monde une fois qu'on a dit ça. Là, il y a un travail d'élaboration que les scientifiques de leur côté...
On
les
perd quand même la notion de simultanéité qui ne posait pas de problème à Newton.
C'est la première conséquence, c'est qu'on ne peut pas définir de façon en effet absolue l'idée du « en même temps » pour des événements ou des processus qui ont lieu à distance. Évidemment, si ça a lieu localement...
S'ils sont contigus,
dans un contigu, là on a une notion immédiate de simultanéité, c'est ici maintenant. Mais dès qu'on introduit la distance dans l'espace, eh bien on a ce problème qu'on ne peut pas donner une valeur, une signification absolue à... la simultanéité bon, de deux événements. Et là, il faut se débrouiller, il faut retramer en quelque sorte l'idée de coexistence. Parce que malgré tout, c'est tout l'enjeu du paradoxe des jumeaux auquel on va venir, je pense, c'est malgré tout, les choses coexistent. Elles ont beau être en quelque sorte rivées à leur temps propre, un temps local, elles coexistent dans un monde, il y a bien un univers.
Mais ce monde n'est pas celui qu'on croit.
Voilà.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors venons à ce paradoxe des jumeaux de Langevin, Lee Dering, puisque c'est le centre de votre présentation de l'ouvrage. Alors quand on ouvre un manuel de physique, au chapitre théorie de la relativité restreinte, il y a toujours ce paradoxe des jumeaux de Langevin, dont on dit qu'il a été énoncé par Langevin en 1911. Mm-hmm. Sauf que c'est la grande découverte quand on lit votre livre. Moi, j'avais jamais lu ces conférences de Langevin. Il ne parle pas de paradoxe, il ne parle pas de jumeaux.
Oui.
Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette contorsion historique ?
Oui, c'est assez amusant. Alors, il y a un travail un peu de généalogie auquel je me suis livré. C'est vrai que personne, à ma connaissance, l'avait fait jusqu'au bout. Essayer de montrer comment se constitue un lieu commun scientifico-philosophique aussi important que le paradoxe des jumeaux. Maintenant, n'importe quel manuel d'introduction à la relativité présente la chose. Alors, il y a différentes variantes, mais en gros, c'est toujours l'idée que un voyageur, un astronaute, part à bord d'une fusée à très grande vitesse. C'est important qu'il aille assez vite pour que l'effet soit sensible. Il fait demi-tour, il revient et il retrouve son frère jumeau plus vieux que lui. Alors, et plus vieux à proportion qu'il sera allé vite. Et en fait, quand on pourrait dire à proportion qu'il aura été accéléré. Mais alors là, c'est là que les versions varient.
Donc les jumeaux ne sont plus jumeaux.
Voilà. Alors ils sont plus, en tout cas, ils sont déphasés. C'est bizarre, des jumeaux déphasés qui n'ont plus le même âge.
Tout en étant dans le même présent. Après le retour,
bah oui, parce qu'ils sont réunis. Alors, dans la version optimiste, ils sont réunis et ils sont tous les deux vivants. Il y aurait une version vraiment tragique où le jumeau sédentaire resté sur Terre serait mort depuis longtemps.
Sans avoir vécu moins longtemps que l'autre.
Voilà.
Dans son référentiel à lui.
C'est quand même la bizarrerie, c'est que tout du long, on peut les supposer contemporains, en un certain sens. Et ils reviennent déphasés. Bon. Le paradoxe est immédiat dans la façon même dont on le présente, mais la bizarrerie, c'est que Langevin s'emploie à toute force à dissiper aussitôt et presque d'emblée quoi, l'apparence de paradoxe en disant très vite que, attention, il n'y a pas lieu de s'étonner parce qu'en réalité, du fait qu'il est accéléré, le jumeau voyageur, du fait qu'il fait demi-tour, simplement, il rebousse chemin, donc le vecteur vitesse change de direction, du fait qu'il y a il subit des accélérations, en fait, il n'y a pas de symétrie réelle entre les deux. Il n'y a pas deux référentiels qui seraient en quelque sorte en vis-à-vis et qu'on pourrait symétriser. Il n'y a pas de réciprocité. Il y en a un qui...
C'est peut-être le moment de dire que la théorie de la relativité d'Einstein de 1905, oui, qui s'appelle pas encore restreinte, elle s'appellera restreinte plus tard quand il aura fait la théorie de la relativité générale en 1915, ne s'applique qu'à des référentiels qui sont en translation rectiligne et uniforme.
C'est-à-dire absolument,
qui ont une vitesse constante l'un par rapport à l'autre et dans la phase d'accélération ou de décélération du voyageur, elle ne vaut plus.
Donc, alors, au mieux, on peut dire qu'il change continuellement de référentiel, le voyageur. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas deux référentiels qui permettraient de cadrer la situation comme on a l'habitude de le faire quand on évoque, en effet, dans le contexte de la relativité restreinte, des changements de référentiel. Et donc, il y a une fausse apparence de symétrie qui est troublante. Parce que, vous voyez, le paradoxe tel qu'on le présente aujourd'hui, c'est pas tellement que, bon, cette histoire est vraiment étrange, quoi. Le vrai paradoxe, c'est qu'on a le sentiment que ça pourrait être aussi bien le voyageur qui est plus vieux que le sédentaire. Et pour une raison simple, c'est que si on s'en tient à la stricte relativité, au strict principe de relativité du mouvement, qui est même pas un principe einsteinien, qui est déjà chez Galilée, l'idée que celui qui est en mouvement peut se considérer lui-même immobile.
Le mouvement est comme rien. Le mouvement, quand on est en mouvement, ouais, tout se passe comme si on n'était pas en mouvement, à condition que ce mouvement soit en ligne droite, à vitesse constante.
Donc, en l'occurrence, le voyageur peut très bien se dire, dans son astronef, que c'est la Terre qui s'éloigne de lui et qui revient à lui au moment de la réunion. C'est une stricte relativité cinématique.
Donc, ils sont tous les deux plus jeunes l'un que l'autre.
Donc, le vrai paradoxe, mais en nouveau, Langevin dissipe immédiatement, c'est celui-là. C'est qu'on aurait des jumeaux qui sont tous les deux plus jeunes l'un que l'autre. Ce qui n'a strictement aucun sens. Là, on est dans l'ordre du paradoxe logique. Alors, il dissipe cette apparence de paradoxe et dit que c'est en fait une conséquence assez triviale des équations de la relativité. Et quelques années plus tard, ce sera vérifié d'ailleurs de diverses manières. L'expérience la plus remarquable, c'est celle qui impliquait, ça c'est assez tardif, c'est dans les années 70, des avions qui portent des horloges tournant à grande vitesse autour du globe,
des
horloges atomiques très précises, et puis quand elles reviennent à la maison, en effet, on s'aperçoit qu'il y a un léger décalage.
Très léger.
Alors,
c'est pas un bon moyen de rajeunir.
On peut prendre aussi l'exemple des vrais jumeaux de la NASA, Mark et Scott Kelly, dont l'un a passé, je crois, 280 jours dans la station orbitale internationale et l'autre seulement 50. Bon, il y a quelques millisecondes de décalage entre eux. Là, c'est vrai, c'est avéré.
Mais ça se voit très nettement avec les particules. Et elles ont des vitesses beaucoup plus rapides que n'importe quel moyen de transport que les humains peuvent concevoir ou emprunter.
Donc, alors, en plus, ça a donc été vérifié expérimentalement. Du temps de Langevin, ce n'était pas encore une vérité expérimentale, mais pour lui, ça ne posait aucun problème. Et donc, la bizarrerie, c'est que pour lui, ça n'a rien de paradoxal. C'est juste quelque chose à quoi il va falloir désormais s'acclimater. Et par ailleurs, en effet, il ne parle pas du tout de jumeaux. Il parle d'un voyage en boulet, ce qui est assez amusant. Il y a un côté Jules Verne.
Artilleur.
Ouais, c'est ça. Donc, on tire un boulet. Et il ne parle pas de jumeaux. S'il parle d'un voyageur qui revient sur Terre, simplement. Il voit que la Terre a vieilli.
C'est 2 ans et 200 ans, je crois.
Alors voilà, ça, c'est les valeurs qu'il donne. 2 ans pour 200 ans. Alors après, on peut varier en fonction de
la vitesse et de la durée du voyage.
Mais le point, c'est qu'il n'y a ni paradoxe ni jumeaux. C'est ça la bizarrerie. Alors, comment est-ce que ça s'est constitué? Il y a des étapes que je me suis amusé.
En fait, ce paradoxe, appelons-le comme ça quand même, parce qu'il a gardé, enfin, il a pris ce nom et on ne pourra pas le défaire. Il est déjà dans l'article d'Einstein de 1905.
Oui.
L'article qui est publié en juin se termine en disant il y a un truc bizarre comme conséquence de la théorie que je viens de développer. C'est que si je prends deux horloges au même endroit de l'espace, si l'une s'écarte de cet endroit et fait une trajectoire, disons, circulaire, autour du point de départ, et si elle revient, alors les deux horloges seront désynchronisées.
Ouais.
Elles n'indiqueront plus la même heure. Et donc, Langevin n'a rien inventé.
En un sens, il n'a rien inventé, parce que ce paradoxe, il est effectivement présent dans l'article de 1905. Il est même repris au tout début de l'année 1911, dans une autre conférence d'Einstein à Zurich, où il a introduit une dimension supplémentaire, c'est qu'il dit on pourrait mettre des organismes vivants dans une boîte et se livrer à la même expérience. Alors, dans le texte original, en 1905, c'est des horloges, l'une placée au pôle nord ou sud et l'autre à l'équateur. Donc, elles sont dans la situation typique du paradoxe des jumeaux. Ensuite, donc, il introduit en 1911 des organismes vivants.
Un observateur, un vrai observateur, en fait, vivant.
Et alors, ce que fait la nouveauté de Langevin, c'est ça le coup de génie, c'est qu'il invente une sorte de fable, un apologue, où il y a deux observateurs humains, donc des consciences capables de mesurer et donc d'éprouver en quelque sorte, en conscience, ce déphasage, ce différentiel de durée. Et d'ailleurs, il s'est introduit aussi une connotation science-fictionnelle qui a beaucoup fait pour la fortune de ce paradoxe. C'est qu'il y a, bon, je parlais du côté Jules Verne à cause du voyage en boulet. Ça évoque évidemment la Terre Terre à la Lune. Il y a un côté H.G. Wells, la machine à remonter le temps, puisqu'il dit, ça donne un moyen à quelqu'un que ça intéresserait d'explorer l'avenir de la Terre. Puisqu'en effet, quand le jumeau revient et qu'il s'est écoulé, bah, disons, 200 ans, quand lui en a passé 20 ou 2 dans son astronef, en un certain sens, qu'il faudrait.
Le livre de Wells a été publié en 1895, donc voilà, en effet, il avait le temps de le lire.
En un certain sens, il voyage dans le futur de la Terre. Et ça lui prend beaucoup moins de temps que d'attendre sur Terre.
Donc on ne peut pas voyager dans son temps propre, mais on peut voyager dans le temps d'un autre observateur.
Voilà.
Le fait qu'on ait mis comme ça un observateur conscient qui peut prendre des mesures et même parler, raconter son expérience, est-ce que ça n'est pas ça qui a conduit à ce que la relativité soit comprise par beaucoup de gens comme un subjectivisme? C'est-à-dire que c'est l'observateur en tant que lui-même qui va créer la relativité du temps et non pas le temps lui-même qui serait intrinsèquement relatif.
Cette reformulation de l'affaire a beaucoup impressionné les esprits, mais aussi elle a introduit ce doute-là, chez les philosophes notamment, que ça n'est qu'une affaire ça n'est qu'une manière de mesurer, une affaire liée à la manière, aux moyens qu'on se donne de mesurer le temps et que ça n'atteint pas donc la véritable substance du temps. Ce qui est, à mon avis, une perspective erronée. Je pense que, en réalité, c'est pas une affaire de mesure. Ça touche réellement à la manière dont on conçoit la coexistence des durées dans l'univers. Mais bon, pour terminer juste finalement, cette question qu'on se posait, comment le paradoxe des jumeaux a émergé? Il y a 2 ou 3 étapes qu'on peut marquer, 2 ou 3 jalons. C'est ma découverte. C'est Hermann Weyl, le grand mathématicien Hermann Weyl, qui a aussi contribué la relativité à sa façon, qui en 1918, dans son classique « Temps, espace, matière », introduit des jumeaux. Et ensuite, il fallait une étape supplémentaire qui a été franchie.
Pour la première fois. Ouais. Voilà.
Avant, il n'était jamais question de jumeaux. Von Laue, dans son manuel de relativité de 1912, parlait du paradoxe de Langevin, mais ce n'était pas le paradoxe des jumeaux. Puis ensuite, en bout de chaîne, il y a Bergson qui arrive et qui baptise les jumeaux. Ça, c'était très important. Il les appelle Pierre pour le sédentaire, Paul pour le voyageur. Leur donner des noms, c'était une façon aussi de, en quelque sorte, d'inscrire physiquement, matériellement, leur caractère purement substituable. Pierre et Paul, Paul et Pierre. L'argument de Bergson, qui est erroné, c'est qu'il y a une symétrie fondamentale qui fait que chacun peut se dire plus jeune que l'autre. Et donc, au total, ils auront vieilli de la même manière. Argument erroné que, pourtant, un scientifique, et pas des moindres, un Painlevé, un grand mathématicien, connu probablement plus connu à l'époque pour, comme figure politique. Hein, il était
président du Conseil.
Président du Conseil, une grande figure du cartel des gauches. Mais bon, enfin, pain levé, au moment où Einstein visite Paris en 1922, à l'invitation de Langevin, entreprend directement Einstein au tableau noir pour lui expliquer que le paradoxe des jumeaux de Langevin, donc qui en effet vient d'Einstein, présente un vice fondamental. Et sa manière de l'expliquer, c'est celle que reprend Bergson quasiment littéralement. C'est de dire, en fait, si on regarde bien, il y a une symétrie et ils sont chacun plus jeunes que l'autre, donc en fait, il se passe rien. Et bon, Einstein pointe le vice de raisonnement en deux minutes, et ben un pain levé, très honnêtement, comprend son erreur et se rétracte. Bergson ne se rétracte pas parce que pour lui, cette affaire-là n'est pas réglée philosophiquement.
Alors peut-être qu'on y reviendra, mais en 22, quand Einstein vient à Paris, la relativité générale est sur pied.
Oui.
Et donc, on sait décrire les phases d'accélération et décélération qui, en 1911, prêtaient à confusion parce qu'on avait une relativité qui ne valait que pour les référentiels à vitesse constante et non pas pour les référentiels accélérés. Mais dans l'article d'Einstein de 1905, à aucun moment il ne parle de vitesse d'écoulement du temps. Alors que Langevin le fait.
Ouais.
Et ça, peut-être que c'est lui qui est responsable de ce que je considère comme un gros problème, à savoir que beaucoup d'étudiants résument la théorie de la relativité en disant qu'elle démontre que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Et donc si je suis en déplacement, par exemple dans une fusée, le temps qu'il me faudra pour lire un livre sera moindre ou plus grand, ça n'est pas précisé, que le temps qu'il me faut pour lire ce livre dans ce studio, par exemple.
Oui.
Alors que la relativité est le contraire, elle dit le mouvement est comme rien. Donc quand je suis en mouvement, tout se passe comme si je n'étais pas en mouvement. Mais cette idée de vitesse d'écoulement du temps, elle est absurde, parce que le temps, enfin une vitesse est une dérivée par rapport au temps, et donc le temps ne peut pas varier son rythme d'écoulement par rapport à lui-même. Et pourtant, elle crée énormément de confusion dans les esprits, avec l'idée que le fait de bouger change le temps de celui qui bouge.
Oui. Et moi, là, sur ce point, on est, je pense, entièrement d'accord. C'est que là, il y a une confusion conceptuelle, mais qui nous renvoie à un problème de fond, qui est, au fond, quel genre de chose est le temps ? Est-ce que le temps, je dois le concevoir comme une sorte de super, un super phénomène ou un hyper phénomène qui serait une sorte le devenir profond qui rend compte de tous les devenirs. Est-ce que le temps lui-même est un phénomène du type changement, du type devenir, du type succession ? Et en effet, dès qu'on pense comme ça, c'est quasiment inévitable qu'on s'imagine qu'il faille traduire le paradoxe des jumeaux en termes de durée plus ou moins dilatée, plus ou moins compressée, en termes de ralentissement d'horloge et donc du temps lui-même, etc.
Mais même ça, je trouve que c'est ambigu parce que ça laisse entendre qu'il y aurait un seul temps universel dont la vitesse d'écoulement serait élastique. Enfin, ouais. Ça serait un temps élastique. Or, ce que dit Einstein, c'est qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Et si ces observateurs sont en déplacement dans l'espace, leur temps propre se désynchronise.
Pourquoi je préfère parler en effet de désynchronisation ou de déphasage temporel, mais en prenant déphasage en un sens non technique. C'est-à-dire qu'il y a, des sortes de faux raccords constants dans l'espace-temps qui sont liés à l'affaire décrite par Langevin. Ce paradoxe des jumeaux ne fait que, en fait, saisir une situation qui est absolument générale en relativité générale, où on a affaire quasiment tout le temps à des référentiels non inertiels, c'est-à-dire que les durées propres, c'est-à-dire les durées mesurées sur place, en quelque sorte, le long des devenirs, le long des durées concrètes, ces durées propres ne cessent de se déphaser les unes par rapport aux autres. Mais se déphaser, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une sorte de substance universelle partout répandue, distribuée dans tous les devenirs concrets, qui serait le temps et qui serait élastique au sens où il serait dilaté.
Einstein, quand il a vu qu'il y avait tous ces glissements sémantiques, a dit que sa théorie de la relativité, il aurait dû l'appeler la théorie des invariants.
Ça aurait été plus simple, ça aurait évité quelques
malentendus. Il écrit, elle est une théorie des invariants, non des quantités relatives. Elle identifie ce qui, dans la nature, est absolu, ne varie pas quand on change de référentiel. Elle exprime en un même formalisme à la fois l'invariance de la vitesse de la lumière et l'indépendance des lois de la physique par rapport au point de vue de l'observateur. Donc c'est tout le contraire d'un subjectivisme. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une réponse qu'il a faite à un historien d'art, qui lui avait soumis un article intitulé « Le cubisme et la théorie de la relativité », dans lequel ce monsieur plaidait pour leur mise en relation au motif que, dans l'un comme dans l'autre, dans la relativité et dans le cubisme, on autorise la simultanéité de plusieurs points de vue. Il faut avoir plusieurs observateurs jugeant la même situation pour avoir une description complète de l'événement qu'on veut décrire.
Oui.
Et Einstein avait pris la peine de répondre à ce monsieur en lui disant « L'essence de la théorie de la relativité a été comprise de façon incorrecte dans votre article, sans doute du fait de certaines tentatives de vulgarisation de la théorie qui sont parsemées d'erreurs. En physique, quand il s'agit de décrire une suite donnée d'événements, on utilise presque toujours un seul système de coordonnées. La théorie dit seulement que les lois physiques qui régissent cette suite d'événements sont telles que leur forme ne dépend pas du système de coordonnées particulier qui a été choisi. Cette exigence n'a rien à voir avec la façon dont une situation unique, spécifique, est représentée. Une multiplicité de systèmes de coordonnées n'est pas nécessaire pour sa représentation. Il suffit de la décrire mathématiquement en relation avec un système de coordonnées, et cette représentation est alors équivalente à celle que l'on obtiendrait si l'on avait choisi un autre référentiel. Il en va tout autrement pour la peinture de Picasso. Notre façon de ressentir chacun de ces tableaux dépendant bien sûr de notre subjectivité personnelle, plusieurs points de vue différents doivent être sollicités pour appréhender son unité globale, mais ce fait n'a rien de commun avec la théorie de la relativité.
C'est une très belle réponse qui en même temps montre bien le point que Einstein ne veut pas franchir, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour esquisser des parallèles avec différentes choses. Lui-même ne se prive pas de faire de la métaphysique à ses heures perdues, hein, quand il explique à la veuve de Bessot que nous autres physiciens, on vit dans l'univers bloc où la durée n'est qu'une illusion subjective.
C'est pas de la métaphysique, c'est un mot de consolation.
Oui, bon, mais qui prend un tour métaphysique, je veux dire. Là, il refuse de franchir le pas et d'aller en direction de ce monsieur, qui suggère quelque chose qui est tout à fait légitime, à mon sens, qui est qu'en effet, dans le cubisme, il y a un problème qui est comment est-ce qu'on occupe, en un certain sens, comment est-ce qu'on tient plusieurs points de vue en même temps.
C'est une toute autre question.
Oui, mais je crois que cette question se pose, peut-être malgré le physicien,
c'est la question de la subjectivité. Or, lui, s'intéresse à ce qui est objectivable.
Voilà, mais c'est ça, c'est la manière, en effet, dont il transcrit le problème. Il dit subjectif, objectif. Moi, je suis physicien, je prends le parti de l'objectivité, c'est-à-dire de l'invariance. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas la variation subjective ou perspective. Mais il y a un autre problème qui se pose inévitablement quand on réfléchit sur les formats de pensée que produit la relativité, et même sur l'espace-temps lui-même. C'est que l'espace-temps, en un sens, évidemment, c'est une forme géométrique à quatre dimensions dans laquelle on saisit des invariants. Bon, typiquement, des mesures de temps propre le long de lignes d'univers, ça c'est invariant, ça dépend pas de la perspective ou du référentiel. Et c'est ça que c'est là-dessus qu'on raisonne et qu'on calcule. Mais ce que montre aussi, ce que saisit aussi l'espace-temps, et c'est ça qui fait que c'est un objet très beau, esthétiquement très impressionnant et tout à fait en phase avec les tentatives modernistes du cubisme, ça montre aussi un espace de coexistence ou de compossibilisation de perspectives. Il y a inclus dans la trame, j'allais dire dans la trame topologique en fait de l'espace-temps, il y a la possibilité d'installer plusieurs perspectives équivalentes en effet, et dont l'équivalence permet ensuite de saisir des objets invariants, ceux qui intéressent le physicien. Mais pour celui qui ne fait pas de la physique et qui s'intéresse à l'objet de pensée espace-temps, il y a aussi ça. Il y a la contemporanéité, on pourrait dire la simultanéité en un sens, de points de vue, de perspectives équivalentes sur...
Tout existe en même temps tant qu'événement. C'est ça que vous voulez dire, Elie Düring ? Tout existe en même temps que le matériau de base de la réalité, c'est l'événement.
Ouais.
Une chose est une suite d'événements.
Oui, et ce que montre, si on peut être même plus technique, ce que montrent les fameux diagrammes d'espace-temps de Minkowski, qui permettent de formaliser géométriquement ces questions de...
Minkowski qui a introduit l'espace-temps, pas Einstein.
Voilà. Et d'ailleurs, Einstein était un peu méfiant au début, parce que cet objet mathématique lui paraissait bien lourd à manier.
Oui, vous racontez très bien cet étonnement d'Einstein devant ce qu'a engendré sa propre théorie.
Ouais. Et ensuite, ça lui a été bien, bien commode, évidemment. Mais il y a dans les diagrammes d'espace-temps de Minkowski, on voit très bien comment deux perspectives sont intriquées l'une dans l'autre et en quelque sorte superposées, comme en transparence, comme des papiers calques, et avec la possibilité de passer de l'une à l'autre pour donner une forme équivalente à des expressions invariantes, à des objets invariants dans l'espace-temps. Mais, voilà, je veux dire, le problème de la simultanéité des perspectives, il est posé. Et en effet, il est posé quasiment de façon simultanée. Bon, les Demoiselles d'Avignon, c'est quelques années après 1905. Et il est posé par les avant-gardes esthétiques, par le cubisme, aussi par le futurisme, par les constructivistes russes. Ils sont tous obsédés par ça. Et donc, il y a une chose, alors on peut évoquer le cubisme, mais de façon presque encore plus géométriquement claire, il y a une fascination de tous ces gens, tous ces modernistes, pour un procédé de représentation perspective qui est l'isométrie ou l'axonométrie, c'est-à-dire la représentation en perspective parallèle, sans point de fuite, à l'horizon. Donc perspective parallèle. Pourquoi ça les intéresse ? Parce que c'est typiquement un mode de représentation, notamment pour les constructions architecturales, qui permet en quelque sorte de saisir en transparence et dans un état de superposition différents points de vue, différentes orientations en même temps, à l'image du fameux cube de Necker qu'on représente toujours en isométrie, en filaire, et qu'on voit tantôt en plongée, tantôt en contre-plongée. Et si on regarde bien et longtemps, et peut-être dans un état de semi-hypnose, qu'on voit adopter les deux orientations en même temps. Je crois que cette intuition, bon, qui n'a aucun intérêt, je suppose, pour un physicien.
Non, mais vous voulez dire que c'est peut-être la physique, enfin la relativité en l'occurrence, ouais, qui a inspiré cette volonté chez eux.
C'est très évident, puisqu'ils se réfèrent tous à l'espace-temps.
Parce que l'espace-temps de Minkowski, pour voir en même temps tous les événements, toutes les lignes d'univers, disons, il faut être Dieu, enfin, il faut échapper à l'espace-temps pour voir tout ce qui s'y déroule.
On ne devrait pas pouvoir le voir, et en même temps, on a un format de représentation
qui permet de
penser. Idéalement permet de penser cette coexistence. C'est ça le paradoxe. Il y a vraiment une disjonction, une sorte d'écart presque insoutenable entre ce qu'on peut voir, en l'occurrence ce qu'on a du mal à voir, et ce qu'on peut déjà penser.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, vous avez parlé de la discussion qu'il y a eu à cette occasion à Paris en 1922 entre Painlevé et Einstein. Ouais. C'est assez technique.
Ah, oui.
Et je pense qu'Einstein était agacé par ce qu'on disait dans les journaux.
Sans doute.
À Paris, par exemple, il y a le journal La France, daté du 7 avril 1922, qui raconte la visite d'Einstein à Paris. Et l'auteur de l'article écrit ceci. La relativité des choses, des actes et des mesures qu'Einstein est venu nous enseigner paraît à beaucoup, nous le savons, assez incompréhensible. Là, on est d'accord. Ouais. Cependant, sans prétendre escalader les hauteurs de la théorie einsteinienne, inaccessible à ceux qui ne constituent pas l'élite des mathématiciens, il est facile de saisir le rapport existant entre de bonnes finances et l'économie, d'apercevoir la relativité des dépenses qu'autorise une situation prospère ou une situation précaire. Donc ce monsieur pense que Einstein a démontré qu'il est plus facile de dépenser de l'argent quand on est riche, ouais, que quand on est pauvre. Donc il y a eu toutes sortes de malentendus, ouais, qui ont agacé Einstein et qui, justement, l'ont fait regretter d'avoir appelé sa théorie de la relativité.
Oui.
Et il aurait préféré théorie des invariants ou chronogéométrie. Enfin, il y a plusieurs appellations qui étaient à disposition. Et donc, pour revenir à Langevin, est-ce qu'il a été convaincant auprès de Bergson, partiellement, vous l'avez dit, mais auprès d'autres?
Il a été impressionnant. Ils ont tous été...
Impressionnant par les... Moi, je suis impressionné par la qualité de l'écriture.
Ah, bah, d'abord, c'est une très belle...
Très belle langue, il a tout compris.
Et je trouve, pédagogiquement, c'est un modèle. C'est qu'il, il introduit aussi... Alors, évidemment, il y a un climat... C'est 1911, quoi. C'est avant la relativité générale. Il y a encore un climat, une sorte de vision du monde, on pourrait dire, maxwellienne ou électromagnétique. C'est vrai qu'il y a encore question d'éther. L'approche n'est pas...
Ça m'a beaucoup surpris. En 1911, ouais, il croit encore à l'éther. L'éther, ouais, qui porte la lumière, alors qu'Einstein a proclamé sa mort en 1905.
Alors, on pourrait charitablement l'interpréter comme une sorte de préscience de la relativité générale, au sens où la relativité générale, Einstein lui-même, a réintroduit une forme...
Ça, c'est un tour de passe de philosophe que j'admire, mais
non,
auquel...
Non, parce que c'est...
Vraiment c'est, il pensait c'est... que l'éther allait porter la gravitation.
Il y a un texte tardif, de 18 ou 19 d'Einstein, sur l'éther, où il explique, en un sens, l'espace-temps quadridimensionnel,
oui,
ce n'est pas les mêmes, c'est pas l'éther maxwellien, mais réintroduit le concept d'éther, ça, sa fonction structurale dans la théorie physique, qui était de donner un cadre unifié où les aspects cinématiques et dynamiques pouvaient être saisis en même temps, d'un coup. Tandis que ce que fait la relativité de 1905, la restreinte, c'est elle donne un cadre cinématique, quoi. La dynamique doit être incorporée. En plus, il faut mettre le champ gravitationnel, il faut le rajouter. Donc, cette unification, on peut dire, c'est produit un nouvel éther, qui est l'éther quadridimensionnel, l'espace-temps, comme forme épurée, géométrisée de l'ancien éther, et courbé, variablement courbé. Alors on peut dire que Langevin avait travaillé déjà dans ce programme, et c'est vrai, très largement, il travaillait dans ce programme de recherche-là. Il n'était pas loin d'avoir découvert des choses très importantes avant même Einstein. Mais bon, ça c'est un problème pour historien des sciences. Il y a ce climat un peu étrange, il est question d'éther, mais si on met ça de côté, il y a quand même, moi je crois pour la première fois, l'introduction d'une sorte de... Il fait voir, en fait, Langevin fait apparaître l'infrastructure, l'échafaudage rationnel de la théorie d'Einstein. Ce que Einstein, à l'époque, ne faisait pas vraiment. Il avait Einstein une façon très cursive, très rapide, très sèche d'introduire les idées. C'est un autre style de pédagogie.
Très implacable.
Ouais, très implacable. C'est le coup de bâton du maître zen, quoi. Alors que Langevin prend le temps. C'est des conférences assez longues. Et en effet, il y a un bel exercice rhétorique. Et puis, vraiment, il met à nu l'architecture conceptuelle. Et notamment, il introduit, je pense pour la première fois avec autant de clarté, les deux principes phares, les deux piliers de la relativité, qui sont, on l'a évoqué, le principe de relativité, l'équivalence des référentiels inertiels, mais aussi le principe qu'on pourrait appeler le principe de localité. Je crois que c'est lui qui l'appelle comme ça pour la première fois. Le principe de localité, cette idée qu'en effet, toute connexion réelle, toute connexion causale prend du temps. Il faut passer toutes les médiations, franchir toutes les médiations de proche en proche, et on ne peut pas le faire plus vite que la lumière. Ça, c'est capital, et c'est de la conjonction de ces deux principes, relativité et localité, que naît le paradoxe des jumeaux, en fait. Et ça, il le montre de façon...
Mais est-ce que vous voulez dire à Lunéring qu'il a pensé en quelque sorte plus loin qu'Einstein ?
Il a pensé, je dirais, non, pas plus loin. D'abord, Einstein avait fait le travail malgré tout, donc c'était facile ensuite de revenir réexposer les choses, de les mettre à plat. Mais il a pensé plus loin en direction des philosophes. Il a fait beaucoup plus d'efforts en direction des philosophes, en direction d'une médiation et peut-être même d'un concordat avec les philosophes de l'époque. Alors ça a du bon, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas durcir les lignes de front et qu'il faut... multiplier les médiations, pas simplement sous la forme de la vulgarisation, mais aussi dans la forme d'une production de textes, hein, comme vous faites vous-même d'ailleurs, intermédiaire entre la restitution scientifique et l'articulation philosophique. Langevin le fait beaucoup mieux qu'Einstein.
Voilà, il essaie de dire ce que les équations diraient si elles pouvaient parler. Voilà. Et dans la première conférence, il n'y a pas du tout d'équation, mais il y en a dans la seconde. Est-ce que le public était différent ?
La bizarrerie, c'est que dans la seconde, c'était un public de purs philosophes, puisque c'était la Société de France. Et c'est pour eux qui fait la conférence la plus technique. Ce qui montre qu'ils étaient intéressés, qu'ils en redemandaient.
Elle est très technique. Enfin, il y a des formules qui ne sont pas très complexes, mais enfin, qu'on peut comprendre que si on a fait un peu de mathématiques.
Il déroule les équations et il l'a fait pour un public strictement philosophique. Ce qui montre à nouveau l'intérêt réel qu'il y avait dès 1911. Alors, ça marchait parce qu'il faisait le travail de médiation. Ma réserve... Ce qu'on pourrait lui objecter, ce que certains scientifiques lui ont objecté ensuite, c'est qu'il va un peu trop loin. C'est-à-dire qu'il est parfois un peu trop soucieux de plaire aux philosophes, c'est-à-dire de se faire entendre d'eux, et donc de traduire les concepts scientifiques en concepts de sens commun philosophique. Un exemple, simplement, cette fameuse notion de temps propre. On l'a évoqué plusieurs fois, c'est l'idée d'un temps qui est mesuré en quelque sorte sur place, c'est-à-dire sans distance perspective, qui est mesuré de proche en proche, là où le processus se déroule.
C'est le temps qu'indique la montre de l'observateur.
Typiquement, ouais. Ma montre au poignet indique le temps propre
pour moi.
Au fil de mes déplacements dans l'univers. C'est l'horloge emportée par le voyageur dans son astronef. Ce temps propre, donc, qui marque des déphasages constants avec les temps propres des autres mouvements, des autres processus, à un moment donné dans sa conférence, ou plus exactement dans la discussion qui suit, parce que dans le livre, là, j'ai reproduit aussi les discussions qui sont passionnantes avec l'auditoire, il propose la chose suivante au philosophe. Il dit « Bon, mais moi, ce que j'appelle le temps propre, moi, c'est exactement ce que vous appelez, vous, la durée psychologique, ou le temps vécu, ou le temps subjectif. C'est la même chose. » Et ça va pas du tout de soi. Pourquoi est-ce que d'abord, on en ferait un équivalent mathématisé du temps subjectif et simplement subjectif? Ça va pas de soi. Bon, on voit le rapport, c'est qu'en effet, ma conscience installée accompagne mon corps et mes déplacements. Si je pense que la conscience est elle-même incarnée, l'horloge interne, l'horloge psychologique que je porte a une sorte d'affinité immédiate avec ce que le physicien mesure comme un temps propre, qui est un temps local, donc une variable locale. Mais bon, d'une part, le temps subjectif, c'est aussi un temps de la simultanéité. C'est aussi le temps qui me permet, moi, de me penser contemporain d'un oiseau qui passe dans le ciel, à distance, ou même de quelque chose qui se passe dans une autre galaxie. Ça aussi, c'est psychique, après tout. C'est pas plus physique qu'autre chose. Et puis, il va pas du tout de soi que le temps propre soit immédiatement recollable avec une notion psychologique du genre de celle qui intéresse les philosophes. Donc, je pense que ça, c'est typiquement une mauvaise proposition, une mauvaise façon de régler le problème, et à tout prendre... Et là, je prêche contre ma paroisse. À tout prendre, je préfère la fin de non-recevoir opposée par Einstein à Bergson en 1922, donc 10 ans après, dans la conférence qui a eu lieu, la rencontre qui a eu lieu au moment du voyage d'Einstein à Paris. Bergson et Einstein présentent chacun leur point de vue sur la relativité. Einstein répond...
Einstein rencontre Langevin ou le connaissait déjà ?
Alors, Langevin, il se connaissait déjà, mais Langevin a beaucoup œuvré pour...
À Bruxelles, la même année, en 1911, au Congrès Solvay.
À Solvay, ouais. Et ensuite, ils ont entretenu une correspondance. Et donc, de haute lutte, Langevin le fait venir à Paris en 1922, dans un contexte un peu tendu, parce qu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Bon, pour toutes sortes de raisons, il est allemand.
Il
est pacifiste, il apporte une science un peu nouvelle, d'une théorie qui prend à rebrousse-poil beaucoup d'évidence chez les savants polytechniciens de l'époque, qui se liguent contre lui, qui lui refusent l'entrée dans des sociétés savantes. Bon, ça a été bien documenté. Mais justement, il y a une rencontre organisée entre Bergson et Einstein, qui est une sorte de dialogue de sourds complet, mais qui se termine par cette fin de non-recevoir d'Einstein. Einstein dit à Bergson, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, il y a en fait il y a un temps physique, c'est ce qui m'intéresse moi, le temps mesurable. Il y a un temps psychologique, qui est le temps vécu, subjectif. Mais alors, je ne vois pas du tout en quoi il y aurait un troisième temps, qui serait le temps des philosophes et qui poserait un problème particulier. Donc en fait,
ça c'est Einstein.
C'est Einstein. Alors c'est très rude Et ça fait pas progresser la discussion, évidemment. Ça a l'avantage de marquer une différence claire. Là où Langevin, lui, je crois, concède trop facilement une sorte d'homologie entre deux notions qui se recollent pas si facilement. C'est-à-dire que le temps subjectif soit mesuré en termes de temps propre, moi, je pense que non, en vérité. Je pense que le temps subjectif a une dimension de simultanéité que le temps propre est incapable de prendre en charge, pour les raisons qu'a indiqué Einstein.
Ou alors, il n'existe pas. C'est-à-dire que nous avons un rapport subjectif au temps qui passe.
On peut dire ça aussi.
Ce qu'on appelle le temps subjectif, c'est simplement l'ensemble des facteurs psychologiques qui déforment notre perception du temps.
On pourrait le prendre aussi de cette manière.
Mais Alain Turing, j'ai une question pratique. Vous avez dit, d'ailleurs, ça se voit très bien dans le livre, que les échanges qui ont eu lieu après la conférence de Langevin de 1911 sont dans le livre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'enregistrement à l'époque.
Il y avait des dames qui sténographiaient comme au Collège de France, parfois, les cours de Bergson, intégralement saisies à la virgule et à l'hésitation près.
C'est incroyable, parce qu'on a l'impression d'entendre des gens parler.
Oui, c'était comme ça. Les papiers ont probablement été repris ou restitués sous forme réécrite, mais les discussions sont intégralement reproduites et c'est formidable. Parce qu'on a l'impression d'assister au débat. Et dans le débat, en effet, il y a des gens, des grandes sommités philosophiques comme Brunschvicg, Édouard Leroy, on en a parlé, et quelques autres, Meyerson qui est là aussi. Et Langevin répond de façon très patiente à des objections qui sont elles-mêmes du côté philosophique aussi parfois assez rudes. Par exemple, Brunschvicg qui ne lâche pas le morceau et qui pose un problème, à mon avis, crucial, qui est la question du surobservateur. On l'évoquait tout à l'heure. Qui est capable de synthétiser l'espace-temps
et
de tout
voir. Voilà. Il faut un méta-point de vue dont la relativité éthique n'existe pas.
Voilà, un hyper-référentiel qui permettrait de saisir la contemporanéité de toutes ces perspectives sur le mouvement. Bon, il n'existe pas, il n'est pas donné. Et Brunschvicg pointe quand même que probablement pas dans la science elle-même, dans l'énoncé physique du problème, mais dans la restitution en langage commun ou philosophique que donne Langevin, il ne cesse en fait de faire comme si on avait un point de vue sur l'affaire. Il dit, mais c'est quoi ce surobservateur? Est-ce qu'il porte lui-même une horloge? Est-ce qu'il y aurait un troisième référentiel ou une super horloge qui totaliserait toutes les horloges? Et là, Langevin voit bien le problème et se retire. Et je veux dire, et à un moment, il dit non, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question, dit-il, de refaire l'unité du temps à partir des temps propres. Et donc, il laisse les philosophes dans cet état de désorientation insoutenable, c'est-à-dire qu'on a fait imploser le temps, il n'y a plus que des durées locales, il n'y a plus de temps universel absolu, mais on ne vous donne aucun moyen de recoller les choses. Sinon, de faire de la géométrie à quatre dimensions.
C'est exactement ce que dit Einstein.
Ouais.
Donc, il a bien compris Einstein sur le coup.
Je pense qu'il a bien compris, mais du fait qu'il va très loin dans la discussion avec les philosophes, il rend les problèmes extrêmement aigus. Là où Einstein, qui avait une méthode beaucoup plus expéditive, s'empressait de dire, bon, il n'y a pas de problème philosophique. C'est soit c'est physique, soit c'est psychologique. Langevin pense que non. Il est charitable, mais du coup, il s'empête dans des problèmes qu'il n'est pas capable de résoudre lui-même, que Bergson a essayé de résoudre avec plus ou moins de succès, que d'autres après lui, Merleau-Ponty, par exemple, qui relie aussi des textes de vulgarisation physique dans cette optique, c'est-à-dire penser la coexistence, penser l'unité d'une nature éclatée, l'unité d'une nature qui a éclaté comme une vitre en sécurite qu'on aurait brisée et qui se serait, en quelque sorte, figée sur elle-même, mais dans un état d'éclatement complet. Voilà ce qu'il faut penser.
Mais Élie Turing, vous êtes un spécialiste de Bergson. Alors, cette fameuse discussion qui en fait n'a pas vraiment eu lieu entre Einstein et Bergson en 1922, elle porte sur quoi exactement? Est-ce que j'ai raison de dire que Bergson reproche aux physiciens, donc à Einstein, d'avoir traité le temps comme de l'espace?
Donc d'avoir raté
la dynamique propre du temps qui le distingue radicalement de l'espace?
Alors, à un certain niveau, c'est ça. Mais ça, d'une certaine façon, c'est pas original, puisque Bergson ne cesse de reprocher ça à la science depuis ses premiers écrits. Il pense que la science, du fait qu'elle géométrise, du fait qu'elle applique un formalisme, disons, essentiellement spatial, quoi, solidifie tous les objets qu'elle touche, et donc manque ce qu'il y a d'essentiellement fluent et temporel dans le temps. Bon, c'est un argument très monotone qui est répété sans cesse.
Elle rate le devenir.
Voilà, elle rate le devenir dans son caractère.
La fixité des lois. Fixité de la géométrie.
Elle rate le devenir dans son caractère mouvant, comme il dit, tout simplement. Bon. Et ça, effectivement, on peut contester, on peut trouver cet argument un peu faible, mais il n'est pas très original. Ce qui est plus original dans le livre et dans l'explication avec Einstein, c'est la façon dont la question se déplace, je dirais, latéralement, en direction d'un autre problème, qui est le problème justement du simultané. Son livre sur la théorie d'Einstein s'appelle « Durée et simultanéité ». Et le simultané, c'est justement, dans ce livre, ça n'est pas simplement l'espace. Ça n'est pas simplement la juxtaposition spatiale des choses qu'on opposerait au temps. Le simultané, c'est une dimension temporelle. C'est la dimension du en même temps, c'est-à-dire le fait que les processus, aussi hétérogènes et divers soient-ils dans l'univers, qui, d'une certaine façon, se déploient ensemble, fluent ensemble. Et donc, c'est un problème que classiquement en philosophie on appelle cosmologique au sens de la métaphysique. C'est-à-dire la cosmologie, c'est la question de l'unité du monde. C'est la question de comment on totalise des états de fait locaux. Et ça, c'est la question qui l'intéresse chez Einstein. C'est sur ce terrain qu'il veut engager la discussion. Et pas tellement sur la question de la mesure du temps et donc, en effet, de sa spatialisation. Ça, c'est des affaires d'une certaine façon qui sont réglées pour lui. Il a rien à objecter au temps des physiciens. C'est simplement pas le devenir. Pour lui, il y a une dimension essentielle qui échappe. Et probablement, beaucoup de physiciens seraient prêts à le reconnaître. Au fond, ce qu'ils mesurent, ce n'est pas le devenir en tant que tel. C'est certaines dimensions du changement physique et qui se connectent à la causalité, etc. Mais la question qui intéresse Bergson, c'est donc le problème de la coexistence des devenirs. Et sur ce terrain, Einstein, c'est peu de le dire, enfin, n'a pas voulu le suivre. Il n'a pas perçu cet enjeu. Probablement que Bergson s'est mal exprimé le jour où ils se sont rencontrés. Il n'a pas été assez explicite.
Einstein comprenait un peu le français, mais pas très bien.
Pas suffisamment. Ouais.
Et Bergson parlait allemand, j'imagine.
Mais pas si bien que ça, apparemment. C'est plutôt un anglophile, hein, de mère anglophone, etc. C'était plutôt de culture anglaise qu'allemande.
Donc on peut imaginer qu'il ne soit vraiment pas compris pour des questions de langue ?
Alors, je ne pense pas que ce soit qu'on puisse réduire ça à ça, mais il y a une dimension d'incompréhension linguistique. Enfin, il y a une anecdote célèbre le jour où Bergson a fait son exposé. Semble-t-il que, c'est rapporté par un témoin, je crois que c'est le fils de Langevin. À un moment donné, Einstein se tourne vers Langevin et dit « Est-ce que vous pouvez me répéter ce qu'il a dit ? Je n'ai pas bien compris. » Et ensuite, il est appelé à répondre. Et donc, on peut supposer qu'il a répondu sur la base
une intuition de ce qu'il a dit.
Une reconstitution personnelle de ce qui a été dit. Mais ce qui a été dit n'était pas en soi très très clair non plus. Donc, malheureusement, ça aurait pu se régler si chacun avait lu l'autre de façon plus patiente. Einstein n'avait pas cette patience. Il a ensuite réagi souvent, hein, dans les années 20, 30 sur Bergson, mais toujours sur le même mode d'une sorte de... Enfin, il pointait les boulettes, comme il disait, les boulettes monstres commises par Bergson. Et c'est vrai que, comme Pain Levé, comme beaucoup d'autres à l'époque, Bergson avait mal compris certains aspects de la situation physique. De là à dire qu'il n'avait rien compris, évidemment, c'est tout à fait abusif. Mais Einstein considérait que ce n'était pas la peine de perdre davantage de temps avec quelqu'un qui faisait des erreurs de ce genre.
Non, mais il y a aujourd'hui des physiciens, je pense à Lise Molin, qui sont en quelque sorte bergsoniens. C'est-à-dire qu'ils pensent que la physique a gelé le temps parce qu'elle n'exprime pas le moteur du temps.
Oui.
Le fait de représenter l'axe des temps par une ligne d'univers, simplement par une suite de points, une droite ou une demi-droite, ne dit pas comment on progresse sur cette droite et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rester présent, même instant présent.
Oui, et Smolin, ce qui est intéressant, c'est qu'il embraye là où Einstein-Bergson avait lâché l'affaire, c'est précisément sur le problème cosmologique. Il travaille dans le domaine de la gravité quantique, mais son intérêt dans le livre que vous évoquez, là, sur le temps, se porte sur des questions cosmologiques. C'est précisément le problème de Bergson. Qu'est-ce que c'est que l'unité d'un univers en devenir ? Une unité cosmologique, donc... Et sa thèse, c'est que pour arriver à penser ça, à penser véritablement l'univers en devenir, avec cette dimension nouvelle apportée par la théorie de la relativité, puis par la mécanique quantique, cet univers en devenir, il faut le penser en réformant complètement l'idée qu'on a de ce que c'est qu'une loi physique. Il va très loin. Et c'est exactement le projet de Bergson. Il faut penser autrement la nécessité.
Est-ce que c'est pas ça le vrai paradoxe ? C'est que Einstein empêche de penser un temps unifié. Et en même temps, sa théorie de la relativité générale permet de penser l'univers comme un objet physique.
Oui, c'est ça.
Donc d'où vient l'unité dont on parle là ?
Oui, c'est exactement le problème. Problème que Bergson avait pour sa part assez bien formulé, je crois. Alors ça, c'est dans un autre débat avec André Metz, un physicien français, où à l'occasion de ces débats, il avait fait une mise au point assez éclairante, je trouve. Bergson disait, au fond, le problème que nous a légué Einstein, c'est celui d'un univers qui n'a plus de figure. L'univers d'Einstein a une figure, il a une tenue, il tient d'une pièce. Il y a Dieu qui est là pour en faire en quelque sorte la synthèse immédiate et complète. Mais avec Einstein, on a un univers. Et évidemment, avec les modèles cosmologiques inspirés de la réalité générale, c'est encore plus clair. Il y a vraiment un objet singulier, l'univers.
Il y a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales.
Et qui pourtant n'a pas de figure immédiate. On est dans le problème.
Alors, Ludwig, j'ai une question presque personnelle.
Oui.
Lorsque vous adressez à des physiciens, vous le faites, je crois, qu'est-ce que vous leur dites ? Et quand vous adressez à des philosophes, qu'est-ce que vous leur dites ? La même chose ou pas ?
Idéalement, il faudrait dire la même chose.
Mais vous ne le faites pas ?
Si, en gros, si.
Ce livre, par exemple, il va être lu par qui, à votre avis ?
J'espère par un maximum de gens, mais idéalement, je pense que les conférences de Langevin, précisément parce qu'elles avaient ce caractère de médiation, qu'elles sont intersectives entre deux communautés, permettent de faire le passage. Quant à moi, évidemment, je m'adresse pas de la même façon à des gens qui ont étudié la question, qui connaissent les équations d'Einstein. J'ai pas besoin de leur réexpliquer, par exemple, ce que c'est qu'un référentiel. Alors que, par exemple, un philosophe qui a pas de formation scientifique particulière, il faut commencer au début. Il faut expliquer Galilée. C'est bien le problème. C'est que les philosophes ont un cerveau qui est en fait pré-galiléen. C'est même pas pré-einsteinien. C'est pré-galiléen. On est aristotélicien, spontanément. Je dis les philosophes, mais en fait, c'est tout le monde. C'est-à-dire, si on n'a pas une solide éducation physique qui vous a redressé vos concepts, spontanément, on pense en termes aristotéliciens, c'est-à-dire qu'on considère que le mouvement est quelque chose d'absolu.
Qui est créé par des forces systématiquement, voilà. Il n'y a pas de mouvement inertiel, etc.
Et donc, cette intuition-là, il faut la contrarier activement. Mais dans un second temps, il faut aussi réintroduire ce que Bergson, ce que les phénoménologues comme Merleau-Ponty ont tenté de faire, c'est réintroduire quand même... L'évidence que porte l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'absolu dans le mouvement. Il y a quelque chose, mais justement dans la notion d'accélération, il y a quelque chose qui se passe, qui affecte les corps. Il y a quelque chose, et ça, il faut le ressaisir qualitativement, c'est-à-dire pas simplement en termes mathématiques, mais il faut en rendre compte. Au niveau des concepts fondamentaux qui nous servent à décrire les choses.
C'est-à-dire est-ce que vous pensez que les choses s'arrangent ? Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel des relations, je le dis de façon très générale, entre les physiciens et les philosophes, entre la physique et la philosophie ? Est-ce que ça se parle ? Est-ce que ça se parle assez ? Est-ce que ça se parle bien ?
Très franchement, je pense que les choses ne s'arrangent pas. Si mon référentiel est 1911, puisqu'on évoquait cette rencontre-là...
C'est une époque bénie.
C'est une époque bénie. Donc par rapport à 1911, on est en régression totale. Maintenant, la science elle-même a explosé dans des directions multiples. Il est de plus en plus difficile aux scientifiques eux-mêmes d'avoir une vue synthétique des différents champs, même de leur discipline, ne serait-ce que la physique, vous le savez bien. Et donc, en effet, on ne peut pas exactement comparer les deux situations. La philosophie elle-même a éclaté en différentes tendances, mouvances, etc. Donc, de part et d'autre, il y a beaucoup d'hétérogénéité, donc ça rend le dialogue difficile. Après, je pense qu'il y a un problème lié à la manière dont la culture scientifique... Alors ça, c'est quasiment un problème de politique scolaire. La culture scientifique s'est découplée de la culture philosophique, malgré tous les efforts qu'on fait. En cours de philosophie, on fait de la philosophie et on a tendance à penser que ça a peu à voir avec ce qu'on fait en physique, en terminale, par exemple. Et ça, ce serait pas très compliqué d'y remédier. Ça supposerait beaucoup de bonne volonté, mais c'est pas compliqué sur le principe. Mais je crois qu'en effet, on a tous intégré l'idée que voilà, il y a quelque chose comme deux cultures. Alors que la philosophie n'a strictement aucun sens si elle n'est pas d'emblée contemporaine des sciences, c'est-à-dire dans une méditation active des sciences. Malheureusement, beaucoup de philosophes ont choisi la filière littéraire. C'est pas mon cas d'ailleurs, mais je peux que déplorer le fait qu'il y ait quand même cette idée qu'à un moment donné, quand on passe en régime philosophique, on fait quelque chose de fondamentalement différent. Je pense pas que ce soit le cas.
Et les Turing, si je vous comprends bien, cette émission s'est déployée selon une ligne d'univers dans l'espace-temps, avec un début et une fin, et là c'est la fin.
Et toutes les bonnes choses ont une fin.
Donc je vous remercie d'avoir participé à cette ébauche de dialogue entre la physique et la philosophie. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac. Dans quelques instants, c'est-à-dire même tout de suite, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.